Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne.
Au menu d'Asialogie,
oui.
Un voyage.
Ah.
Oui. Et l'histoire d'une ville fascinante, une ville qui dort peu.
D'accord.
Et qui parle très bien anglais.
Oui.
Un très beau portail pour découvrir l'Asie.
Mmh,
aujourd'hui, je vous emmène à Hong Kong, chères auditrices et auditeurs.
Très bien.
Et pour poursuivre le voyage, Didier, tu vas nous faire découvrir les bizarreries culinaires asiatiques.
C'est ça.
Pas toutes, on n'aura pas
non,
le temps.
Il y aura quelques-unes. Pas le temps pour tout le monde.
Ah.
Oui, voilà, c'est ça. Du coup, alors, d'abord, tu vas, s'il te plaît, nous décrire un petit peu cette ville dont tu viens de nous parler, qui est en fait aussi une île.
Oui, c'est toujours important de planter le décor.
Voilà.
Alors pour commencer, un petit peu de géographie.
Oui.
Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine,
clairement.
Aujourd'hui.
Mmh.
Une région caractérisée par un paysage spectaculaire de montagnes, d'îles et de très beaux gratte-ciel. Et c'est un centre financier mondial, un carrefour culturel unique entre l'Orient et l'Occident, et je dirais une très belle et passionnante destination touristique.
D'accord.
Alors Hong Kong est situé sur la côte sud de la Chine, bordée par la mer de Chine méridionale et la province du Guangdong. C'est la région de Canton, le Guangdong.
Okay.
Elle couvre environ 1106 km². Alors, ça ne nous donne pas grand-chose comme ça.
Oui.
Donc, c'est deux fois plus petit que le Luxembourg. Donc, c'est...
Ah oui, deux fois plus petit. Effectivement,
oui.
C'est pas grand.
Alors. Luxembourg, qui est comme un grand département français.
C'est ça. D'accord.
Donc, c'est grand comme la moitié d'un département français, on peut dire. Hein.
Mm-hmm.
Mais elle compte plus de 260 îles.
Ah, autant.
Ah, oui, c'est impressionnant le nombre d'îles.
Mmh.
Et Hong Kong signifie littéralement « port parfumé ». Et ça vient de l'époque où la région était un centre de commerce de l'encens et d'épices aromatiques.
D'accord.
Voilà, alors 60% du territoire est montagneux, ce qui limite les terres habitables.
Et, oui.
Et avec 7,5 millions d'habitants, on imagine bien que c'est l'une des zones les plus densément peuplées du monde et qu'on a besoin de s'élever.
C'est ça, clairement.
Pour trouver là où habiter.
D'accord. Du coup, alors, c'est un paysage très diversifié, dis-moi.
Oui, c'est vrai. C'est une très grande ville en pleine nature et ouverte sur la mer.
Mmh.
Et Hong Kong est composée de quatre parties. Il y a l'île de Hong Kong, qui est le centre économique et historique. Donc, c'est là le cœur.
D'accord, le cœur de
Hong Kong.
De Hong Kong, en fait.
Le cœur de la ville et c'est une île.
D'accord.
Donc, assez grande.
Mmh.
Et en face, il y a Kowloon. C'est un quartier qui a un petit peu plus, tout un kilomètre du continent, enfin de l'île,
d'accord.
Sur le continent,
okay.
Du côté de la Chine continentale,
okay.
On appelle ça comme ça. Et c'est un grand quartier plus moderne, très animé, et qui fait partie des nouveaux territoires.
Ah.
Et les nouveaux territoires, ce sont des espaces naturels qui couvrent 86% quand même du territoire de Hong Kong.
Ah, donc, j'aurais pas pensé
autant. C'est vraiment une destination où il y a de la nature, qu'on puisse en penser.
D'accord.
Et puis, il y a bien sûr les îles, dont certaines sont habitées. La plus grande, elle s'appelle Lantau, et c'est là que se trouve l'aéroport.
Mmh.
Alors, son climat est subtropical humide, donc des étés chauds et pluvieux, avec parfois des typhons, et des hivers très doux. Alors, la meilleure époque pour visiter Hong Kong, c'est l'hiver. Il fait 18 degrés en moyenne, donc
d'accord.
Pas trop chaud, pas trop humide. En fait, le printemps est bien aussi et l'automne.
Okay.
Mais le mieux, c'est l'hiver, il fait bon à Hong Kong.
D'accord, donc tu nous as planté le décor maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les Hongkongais eux-mêmes maintenant?
La population est diversifiée, mais je dirais moins que les paysages.
Oui.
Parce que 90% de ses habitants sont chinois, principalement originaires du Guangdong, donc de la région de Canton.
D'accord.
Et ils parlent cantonais, anglais, du fait de leur histoire,
bien sûr.
Et en mandarin. Je dirais par obligation. On n'imagine pas qu'ils ne puissent pas parler le mandarin.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, il y a trois langues officielles à Hong Kong. Et là-bas, les panneaux de signalisation et les annonces dans le métro sont toujours en anglais et en chinois.
Malgré tout, d'accord.
Oui, chinois, cantonais et mandarin.
Ah oui.
Mais dans la vie quotidienne, c'est le cantonais qui domine, il faut
d'accord,
le savoir.
Okay.
Hein, le mandarin, il ne nous sert pas beaucoup là-bas. Enfin, okay. Les gens nous comprennent, hein, mais c'est pas ce qui est le plus important. Alors, à noter que le cantonais et le mandarin sont vraiment deux langues différentes, mais qui s'écrivent pareil. Voilà. Alors, il y a aussi une communauté étrangère importante. Hein. Il y a plus de 600 000 expatriés, dont des Philippins, des Indonésiens, majoritairement employés comme domestiques, des Britanniques, des Américains et environ 10 000 Français.
Ah oui.
On n'est pas la communauté la plus présente
d'accord,
à Hong Kong.
Ouais, naturellement.
C'est surtout les Britanniques
bien
et les
sûr.
Américains.
C'est pas la fête. On a beaucoup entendu parler de Hong Kong ces dernières années, mais quelle est son histoire? Quel lien avec l'Angleterre et donc la Chine?
Eh oui, son histoire est intégrée à celle de la Chine depuis la nuit des temps, on s'en doute. Hein, les premières traces de présence humaine à Hong Kong remontent à environ 6000 ans, à l'époque du Néolithique.
Effectivement.
Et des vestiges témoigne de l'existence de petites communautés de pêcheurs et d'agriculteurs vivant sur le littoral. Alors Hong Kong est vraiment chinoise depuis la dynastie Qin, et on y revient, celle de l'empereur jaune, il y a 2200 ans quand même. Alors au XIIIe siècle, le port de Kowloon était devenu un refuge face aux Mongols de Kubilai Khan aussi.
Ah. D'accord.
Il était venu partout, Kublai, il était loin. Hein. Et puis ensuite, avec la dynastie Ming, entre 1368 et 1644, Hong Kong va se développer comme un port de pêche et de commerce du sel. Mais avec la dynastie Qing, à partir de 1644, la Chine va se fermer aux étrangers, mais certains échanges vont persister avec les marchands portugais, néerlandais, britanniques.
D'accord.
Et oui, Hong Kong était aussi un refuge de pirates, on en parlera une autre fois.
Ça me surprend plus.
Oui, oui. Bon, on se fait une pause musicale, Didier, on va s'écouter. What more could I ask for in life?
Très bien.
冷暖那可休？回头多少个秋？寻遍了却偏失去，未盼却在手。我得到没有？没法解释得失错漏。刚刚听到望到便更改，不知哪里追究。一生何求？常判决放弃与拥有，耗尽我这一生，捉不到已跑开。一生何求？迷惘里永远看不透，没料到我所失的竟已是我的所有。
Voilà Corinne.
Oui.
Donc après les pirates et donc la musique, on va retourner vers Hong Kong. Et peux-tu nous parler des échanges commerciaux et puis particulièrement en fait avec les Britanniques? Comment ça se passait?
Oui, donc les Britanniques ont pointé le bout de leur grand nez.
C'est ça.
Ah, parce qu'on les appelait les longs nez. Hein.
Ah oui.
Oui, oui.
D'accord.
Oui, oui. Alors au début, pas de soucis, hein, mais ça s'est vite compliqué en guerre commerciale avec les Anglais.
Ah.
Enfin, les Britanniques.
D'accord.
Et ça s'est terminé même en guerre tout court.
Ah.
Et aujourd'hui, ça résonne avec ce qui se passe un petit peu avec la politique protectionniste de Trump.
Ah.
Et je vais tenter de résumer l'histoire particulière de Hong Kong.
S'il te plaît, d'accord.
Parce qu'elle est vraiment particulière, cette
d'accord,
histoire.
Okay.
Alors, on arrive avec la dynastie Qing au 19e,
oui.
Puisque c'était la dernière des dynasties
tout
en Chine,
fait.
On se souvient. Et à cette époque-là, la Chine vendait du thé, de la soie, de la porcelaine à l'Europe, mais n'achetait presque rien en retour. C'est pour ça que je dis ça.
D'accord.
Ça nous parle en ce moment.
Oui, malheureusement.
Et ça créait un déséquilibre commercial au détriment des puissances occidentales.
Bien sûr.
Comme quoi l'histoire ne fait que de se répéter. Alors, pour établir l'équilibre, les Britanniques, ils ont fait quand même quelque chose d'incroyable, qu'on connaît mal. Enfin, je connaissais mal, maintenant je connais mieux.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'on en parlait, mais qu'est-ce que ça signifiait ? Les Britanniques ont commencé à vendre de l'opium en grande quantité aux Chinois. Opium produit en Inde, qui était
d'accord.
britannique.
Ah, ok.
D'accord ? Et malgré l'interdiction de l'opium par le gouvernement chinois, qui savait que c'était pas bon pour la santé, le commerce illégal explosait, ce qui a provoqué des ravages sanitaires et sociaux. Et c'est ce qui a provoqué la première guerre de l'opium en 1839.
Ah, 1839,
parce que, oui, donc c'est, je dirais, récent quand même. Hein.
Ouais,
Et le gouvernement chinois, il faisait saisir et détruire l'opium livré par les Anglais. Parce que c'était pas bon pour le peuple chinois.
C'est bon pour personne.
Et c'est ça, c'est bon pour personne
d'accord.
d'ailleurs. Oui, tout à fait, tu as raison Didier. Ce qui a entraîné la destruction de l'opium par les Chinois a entraîné une riposte du Royaume-Uni pour défendre ses intérêts commerciaux.
D'accord.
Et les Anglais ont gagné. À l'époque, la Chine était un peu fragilisée. Hein.
Ok. C'est plutôt injuste de la part des Anglais, mais ça, voilà.
C'est pas
sans
sympa
compter
quand même.
En plus, les ravages de l'opium, quoi.
Oui.
On sait bien.
On fera une émission là-dessus, sur la guerre de l'opium et les ravages de l'opium. Et c'est important, je trouve, moi, de connaître le rôle des Occidentaux dans l'histoire de la Chine. Puis nous, en tant que Français, on s'en est un petit peu mêlés aussi.
D'accord.
Et on a de quoi être surpris par rapport à nos implications. Donc, victoire des Anglais avec la signature du traité de Nankin en 1842, avec la cession de Hong Kong au Royaume-Uni.
Mmh.
Ils avaient joué fin, les Anglais, mais c'était pas très joli quand même.
Non, pas toujours. Non.
Voilà. Puis il y aura une deuxième guerre avec la mise à genoux de la Chine, là, carrément, jusqu'à la première révolution chinoise. Mais revenons à l'île de Hong Kong, qui est devenue anglaise.
D'accord.
Alors, puis en 1960, ce sera Kowloon, donc la partie continentale, qui sera cédée à la Grande-Bretagne, donc un peu plus tard. En 1842, l'île de Hong Kong. Oui. 1860, Kowloon.
Mmh,
et en 1898, la Grande-Bretagne obtiendra un bail de 99 ans sur les nouveaux territoires, c'est-à-dire toute la zone de nature autour de Kowloon, ce qui donnera à Hong Kong sa forme actuelle, en fait.
Ok, j'imagine du coup, forcément, sur cette centaine d'années, enfin 99 ans, que Hong Kong va avoir un développement bien différent de la Chine continentale. Quoi.
Ça va devenir un port de commerce majeur avec la construction d'infrastructures modernes, routes, des tramways, le chemin de fer. Il y aura aussi un afflux de migrants chinois après les guerres civiles et la révolution de 1911, donc beaucoup de main-d'œuvre, mais aussi d'intellectuels, d'ingénieurs, qui vont faire de Hong Kong une zone florissante et un carrefour entre l'Orient et l'Occident. Puis il y aura la Deuxième Guerre mondiale et Hong Kong sera profondément touché. Le Japon y sera présent, comme partout en Asie, mais peut-être plus qu'ailleurs.
Ah oui ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, Corinne ? Hong Kong a été envahi par les Japonais ?
Oui, et très vite. Et ça a été une période vraiment très sombre. Jusqu'à la veille de la guerre du Pacifique,
d'accord.
on pouvait dire qu'Hong Kong était une colonie prospère. C'est le 8 décembre 1941, quelques heures après l'attaque de Pearl Harbor, que les Japonais vont lancer une offensive massive contre Hong Kong depuis le sud de la Chine.
D'accord.
Ils avaient envahi la Chine aussi. Hein. Donc c'était un combat très inégal. Il n'y avait que 14 000 soldats alliés, les Britanniques, quelques Français peut-être, contre 50 000 soldats japonais très entraînés qui n'hésiteront pas à massacrer la population.
Oh,
Hong Kong tombera aux mains des Japonais le 25 décembre 1941 et cette date a été surnommée Black Christmas.
Ah, okay.
Et pendant 3 ans et 8 mois, la population va souffrir, mais vraiment cruellement.
D'accord.
C'est toujours cruel, la famine, mais... Là, c'était incroyablement cruel et beaucoup d'exécutions massives. C'était la terreur et la misère.
Ouais.
Il y a eu une résistance désespérée de la population face à la persécution des Japonais, face aux exécutions publiques, et la torture était courante. Alors, la population passera en 1944 de 1,6 million à 600 000.
Ouf.
en raison des maladies et des départs forcés vers la Chine pour un travail obligatoire. Mmh. Et comme en Corée et à Taïwan, le japonais va devenir la langue officielle.
D'accord.
Et la monnaie britannique remplacée par le yen. Mmh. Mais la résistance s'organisait, alors là c'est aussi une histoire incroyable,
ouais,
entre les communistes chinois, les oui, forces alliées et les triades. Et oui,
eh ben bien sûr.
Il y a eu beaucoup, beaucoup de sabotage à cette époque.
D'accord, mais dis-moi Corinne, à la fin de la guerre en 1945, c'est la libération et...
Oui, eh bien tranquillement, bah, les Britanniques vont planifier la reconquête de Hong
D'accord,
Kong.
Okay.
On s'y attend un peu.
Oui.
Alors on se rappelle que le 15 août 1945, le Japon se rend, après les attaques d'Hiroshima et de Nagasaki, le 30 août 1945, les troupes britanniques débarquent à Hong Kong,
okay,
aussitôt dit, aussitôt fait, hein, pour reprendre le contrôle de Hong Kong, à l'époque en ruine.
D'accord.
Alors Hong Kong accueillera ensuite des centaines de milliers de réfugiés chinois, qui ont fui le communisme de Mao.
Mmh.
Et ça deviendra, à partir des années 80, une ville riche, mmh, un centre financier. Et Hong Kong deviendra l'un des quatre dragons asiatiques,
oui,
avec Taïwan, la Corée du Sud et Singapour.
Alors, pourquoi et quand Hong Kong du coup, a été rétrocédé à la Chine alors?
Alors, on se souvient hein, que la cession, je vous l'ai dit tout à l'heure,
oui,
que la cession de Hong Kong et des nouveaux territoires par la Chine au Royaume-Uni était quand même liée à un traité très injuste.
Mmh.
Hein. Injuste, enfin, ils avaient obtenu ces territoires d'une manière qui n'était
oui,
vraiment pas sympa.
Mmh.
Et le bail de 99 ans sur les nouveaux territoires se terminait en 1997.
D'accord.
Le Royaume-Uni ne pouvait pas garder une partie de Hong Kong tout en rendant l'autre.
D'accord.
Parce qu'en fait, les nouveaux territoires n'appartenaient pas à l'Angleterre. Mmh. C'était un bail. Mais l'île de Hong Kong appartenait à l'Angleterre.
Ok.
Voilà. Donc, c'était vraiment trop compliqué à gérer de ne garder qu'une partie et d'être tout près comme ça. C'était mmh, pas possible. Donc après, et c'était surtout un très mauvais traité, le traité qui avait donné Hong Kong à l'Angleterre.
D'accord.
Alors après des négociations, Margaret Thatcher et Deng Xiaoping
oui,
vont signer un accord. En 1984,
d'accord,
le Royaume-Uni acceptait de rendre l'ensemble de Hong Kong et la Chine promettait d'en mmh, respecter l'autonomie pendant 50 ans,
d'accord,
jusqu'en 2047.
Okay.
Selon le principe de un pays, deux systèmes.
Mmh.
Et c'est ainsi que Hong Kong est devenu le 30 juin 1997 une région administrative spéciale de
d'accord,
la Chine. Et la suite, Didier. Et chers auditrices, auditeurs, ce sera dans une prochaine émission.
Aha.
En attendant, on fait une pause musicale. C'est Ode to the Green Spring. C'est la chanson d'un chanteur coréen qui s'appelle Choo Dae-ye, de la série très célèbre actuellement, La vie portera ses fruits. C'était une des chansons de la bande originale de la série « La vie portera ses fruits ».
Eh ben, c'est une découverte, moi j'aime beaucoup.
Ah, ben, c'est sympa, merci Didier, ça, c'est vrai que c'est moi qui l'ai choisi aujourd'hui.
Eh oui, voilà.
Bon Didier, alors il y a des bizarreries culinaires en Asie, et particulièrement à Hong Kong.
Exactement.
Qu'est-ce que tu veux nous faire déguster? Parce que tu ne vas peut-être pas tout nous dire, donc par quoi tu commences?
Alors, comme partout dans le monde, il y a des bizarreries culinaires en Asie. Et puis, pour les Occidentaux que nous sommes, les palais que nous avons,
oui,
il y a vraiment des choses étonnantes. Alors, je vais en décrire quelques-unes. D'après moi, en fait, c'est les plus insolites qu'on peut déguster en Chine, en Corée, au Japon. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Commençons par la Chine, s'il te plaît.
Oui.
On y mange des œufs de 100 ans. ça peut-être que certains connaissent déjà.
De nom.
Voilà, qui sont le plus souvent des œufs de canne, conservés plusieurs semaines dans un mélange un peu spécial, une recette très ancienne. Le pidan, littéralement peau œuf, se déguste froid, assaisonné avec de la sauce soja, du vinaigre, de l'huile de sésame et du gingembre haché. Enfin, comme on veut, quoi. Son goût se rapproche de l'œuf dur, mais avec une forte odeur de soufre. On peut s'en douter, l'œuf de 100 ans n'a pas vraiment son âge. Hein.
Oui, en c'est fait, un peu rassurant de savoir
ça. Oui, enfin, quand tu le vois, je t'ai pas très rassuré quand même. pour l'avoir déjà fait, non. En fait, son nom vient d'une légende qui raconte que les Occidentaux, en voyage en Chine, il y a longtemps, en voyant des œufs préparés ainsi, auraient dit « Ces œufs sont pourris, ils ont au moins 100 ans ».
Ouf.
Voilà.
Alors, c'est quoi la recette? Comment ils sont préparés, ces œufs, Didier?
Alors, on prépare un mélange d'eau, de chaux, de cendre, de sel et d'un ensemble d'aromates composés d'épices, de feuilles de thé et de zeste d'agrumes.
Oui, on beaucoup fait, de choses.
Voilà, on fait bouillir le tout, on filtre, on y fait tremper les œufs dans un récipient fermé pendant 18 jours à température ambiante.
Voilà.
Puis, on rince les œufs, on les mange. Avec la macération, ils ont bien sûr changé d'aspect. La coquille est devenue rose.
C'est joli.
Le blanc est devenu noir. Là, c'est moins beau. Et translucide. Et comme, en fait, de la gelée. Et le jaune est devenu vert foncé, avec une texture très crémeuse, avec un goût prononcé et une forte odeur soufrée. En fait, par expérience, c'est plus difficile à sentir qu'à manger.
D'accord.
Voilà, c'est mon avis.
Ah, t'as goûté?
Oui.
Alors, pourquoi ils sont transformés comme ça,
alors,
Didier?
Ils ont subi une transformation chimique, un peu comme le kimchi ou le fromager, sauf que là, c'est une fermentation minérale. Il faut savoir que l'œuf de 100 ans est très riche en protéines et en zinc. Très bon pour les personnes âgées et les enfants, car il est facile à digérer et contribue au bon fonctionnement du cerveau,
donc,
du cœur et du foie. Voilà. Oui, il faut. On peut en acheter dans les supermarchés asiatiques, comme chez Tang à Paris, puis d'autres au Mans. Ça coûte environ 8 euros les 6. Ils se conservent plusieurs semaines après achat. Malheureusement, les restaurants n'en proposent pas. Mais on comprend vite pourquoi. parce que nous sommes un petit peu trop réticents,
je pense. Mais ce serait bien pour y goûter, je trouve,
d'être
dans un restaurant.
J'ai goûté une fois et puis j'ai des amis chinois, ils adorent ça. Hein.
Mais oui, je sais.
Je comprends pas, mais ils adorent ça.
Alors, j'ai pas. Peut-être qu'on en trouve au Mans. Faudrait qu'on se renseigne.
Ah, je confirme, on en trouve.
On en trouve.
Oui.
Alors, quoi d'autre? As-tu encore une recette chinoise à nous proposer, Didier?
Oui. Alors, que diriez-vous d'une soupe ou d'un ragoût de serpent, quoi? On en sert. On sert du cobra ou du serpent d'eau, surtout dans le sud de la Chine, souvent cuisiné avec des herbes médicinales. À Hong Kong, c'est un des plats d'hiver traditionnels censé réchauffer les corps, selon la médecine chinoise. Mais c'est surtout en boisson que ces reptiles sont appréciés. On les fait macérer les carcasses dans un liquide alcoolisé pour que le venin soit dissous par l'alcool et qu'il perde ses propriétés toxiques pour être dégusté sans risque.
Oui, je crois qu'on en boit pour éviter les mal de dos ou lutter contre les maux de dos.
D'accord.
C'est bon. Le serpent, c'est comme une colonne vertébrale géante. Alors, pourquoi cette attirance pour consommer du serpent?
Alors, il y a, comme tu l'as dit, un lien avec la symbolique et la médecine chinoise. Il transmettrait sa puissance en donnant de l'énergie et aurait des vertus curatives. On connaît déjà les propriétés
antirides
du venin du serpent, ça on a déjà entendu parler. Il est aussi reconnu depuis plusieurs années pour ses propriétés médicinales, si bien que les laboratoires comme Sanofi se sont associés pour concevoir des médicaments innovants à partir de venin qui pourraient agir contre des pathologies comme le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives ou encore des problèmes rénaux. Il faut savoir qu'en France, la législation, je vais y arriver, interdit la vente de chair de serpent. Il est donc illégal de s'en procurer, même si certains sites internet en proposent à la vente.
Oui, mais bon, c'est finalement assez bon aussi pour la santé.
Oui.
Alors, est-ce que tu as d'autres délices chinois à nous proposer, Didier?
Oui, peut-être encore un petit peu plus facile pour nous à consommer. Voilà. Le tofu puant. Eh oui.
J'adore les noms.
J'adore. Le tofu fermenté dans une saumure à base de lait, justement fermenté, de légumes, de crevettes et d'herbes, qui, en fait, ce sont les égouts. Hein,
ça rappelle le durian aussi.
Oui, voilà. Il y a aussi les pâtes de poulet marinées, souvent frites ou bouillies et assaisonnées à la sauce soja ou au piment. Les pâtes de poulet sont riches en collagène et donc très bonnes pour la peau. Alors, je recommande aussi les testicules de taureau ou de mouton, servis grillés ou en soupe, très appréciés pour ses supposés bienfaits aphrodisiaques.
Mais je pense qu'on en mange aussi ici, non? Sans cachette.
Ouais, enfin...
Certains doivent en manger.
Oui, sûrement.
Et en Corée?
Alors, passons à la Corée. Alors, oui. Ce sera entre fermentation et sensation forte. Bon, on a déjà parlé du kimchi et autres légumes fermentés que maintenant on connaît bien en France et qui nous surprend toujours. Mais le plus surprenant, c'est le poulpe vivant, le poulpe qu'on consomme tout de suite après qu'il ait été découpé. Les morceaux de tentacules bougent encore dans l'assiette. Un plat dangereux parce que, en fait, on peut s'étouffer à cause des ventouses qui s'accrochent à la gorge. Faut bien mâcher, attention d'avaler, hein, s'il vous plaît. Il y a des morts chaque année en Corée du Sud.
Oui, ça c'est épouvantable.
Ouais, ça me fait sourire, mais c'est terrible.
Pas, hein.
Non, moi non plus, ça me fait pas du tout envie. Allez, une autre bizarrerie très populaire et plus facile à manger, les larves de ver à soie qu'on trouve en conserve ou en street food. Elles ont un goût de noisette avec une texture un peu craquante à l'extérieur et molle à l'intérieur.
Moi,
ça,
j'ai
ça
goûté.
Va.
Oui, j'ai goûté.
Moi, ça, je
mais
je n'ai
pas trouvé ça. Le goût de noisette, oh, je ne l'ai pas retrouvé
non,
vraiment.
Oui, c'est vrai, c'est
mais
pas
c'était
ça
en
qui
conserve.
Prime la noisette.
J'imagine que
oui,
c'est peut-être pas.
Oui.
C'est peut-être pas le mieux.
C'est ça, je ne sais pas.
Voilà, et les bizarreries japonaises, parce que j'imagine qu'ils en ont. Nous aussi, on a des bizarreries, mais notre sujet, c'est l'Asie. Donc, on n'apporte pas les.
Et puis, chaque pays a ses bizarreries. Selon les autres.
Exactement,
en fait. Alors,
exactement.
Du fugu, ça,
ah
je
oui,
pense que certains
fugu.
Connaissent le fameux poisson globe, un poisson toxique qui nécessite une préparation extrêmement délicate et potentiellement mortelle. Ça, on en a déjà parlé. Si elle est mal faite, en effet, le foie, les glandes sexuelles et la peau contiennent une neurotoxine puissante. Cette toxine est environ 1000 fois plus puissante que le cyanure. Donc,
oui, c'est dire.
Il n'existe aucun antidote connu. On peut mourir en 4-6 heures. Si on l'a consommé, il faut avoir un petit peu le goût du risque.
Oui,
ben
moi
même.
Je l'aurais pas ni pour la poulpe
ouais,
ni pour le fugu.
Peu aussi.
Alors j'imagine quand même que les cuisiniers sont formés pour le.
Oui,
fugu.
Ils ont une formation stricte de plusieurs années, qui doivent ensuite à réussir aussi un examen difficile incluant la préparation réelle du poisson et une épreuve théorique. Ce n'est qu'après l'obtention de la licence officielle qu'ils sont autorisés de manipuler et de servir le fugu.
Ah oui.
Le plus souvent découpé en sashimi très fin dans une assiette transparente. J'ai vu. Ça, c'est très joli.
Ça doit être très joli.
Ouais, ça l'est. Ils savent bien faire. Il peut aussi être mangé en fondu ou frit. Un plat de fugu pour une personne coûte entre 200 et 400 euros.
Ah
tout
oui,
même,
quand hein. même.
Donc, déjà que j'avais pas trop envie, là, ça m'a calmé direct.
Oui, finalement, on va pas regretter.
Voilà. Comme en Corée, avec le poulpe, chaque année, et là aussi, il y a des morts, car certains font les apprentis sorciers, puis essayent de préparer le fugu eux-mêmes, et puis c'est fatal, quoi.
Oh, il est quand même déjà un peu bête.
Un tout petit peu. Voilà.
Bon, Didier,
oui.
Asialogie, c'est fini.
Voilà.
On se retrouve la semaine prochaine, tout à fait.
Okay.
Mais avant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter samedi matin à 9h30 en podcast sur radioalpa.com. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain. Rendez-vous jeudi prochain à 12h,
c'est ça.
Toujours sur Radio Alpa.
Voilà.
Salut les amis, à la semaine prochaine.
Bonne fin de journée.